Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Incarnat blanc et noir par Louis de Mailly. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Incarnat blanc et noir par Louis de Mailly. Le fils aîné d'un grand roi se promenait tout seul en hiver dans une campagne couverte de neige. Il aperçut une corneille sur laquelle il signala son adresse. L'oiseau tomba mort sur la neige et la teignit de son sang. L'éclat de son plumage noir, la blancheur de la neige et la rougeur de son sang produisirent un assemblage de couleurs dont le prince fut frappé. Cette idée s'empara tellement de son esprit qu'il ne lui fut plus possible de l'en éloigner. Insensiblement, elle lui fit naître dans le cœur une passion violente et qui, tout imaginaire qu'elle était, ne lui permettait pas de croire qu'il pût être heureux que lorsqu'il aurait trouvé une personne dont le teint incarnat et blanc serait relevé par des cheveux d'un noir parfait. Il était comme absorbé dans ses profondes réflexions. Lorsqu'il en fut distrait par une voix qui lui dit « Allez, prince, dans l'empire des merveilles, au milieu d'une immense forêt, vous trouverez un arbre chargé de pommes plus belles et plus grosses qu'elles ne le sont ordinairement. Cueillez-en trois, et soyez assez maître de vous-même pour ne les ouvrir qu'à votre retour. Elles vous offriront une beauté telle que vous la désirez. » L'empire qui lui était indiqué était éloigné et de difficile accès, mais rien ne put empêcher le prince d'en entreprendre le voyage. Il se mit en marche à l'heure même, traversa les mers, parcourut avec un soin infini toute la forêt, bref, il trouva l'arbre. Il cueillit les trois belles pommes, et ne pouvant dans le premier transport de sa joie résister à la curiosité qui le tourmentait, il en ouvrit une. Il en sortit à l'instant une personne si merveilleusement belle et si fort à son gré qu'il en fut saisi d'admiration. Mais cette beauté, bien loin de lui être favorable, le regarda d'un œil courroucé, et se plaignant de ce qu'il l'avait enlevé de chez elle, elle disparut au même moment. L'impatience à laquelle il venait de succomber devait naturellement le désespérer, mais comme il avait l'esprit susceptible de consolation, c'est un beau don du ciel, il se flatta aisément qu'il trouverait de quoi réparer sa perte dans les deux pommes qui lui restaient. Rempli de cette douce espérance, il résolut de ne point les ouvrir qu'il ne fût de retour dans son pays. Souvent les plus tristes expériences ne sont pas capables de corriger d'un faible défaut. L'impatience du prince fut encore plus forte que sa raison. Il ne put résister une seconde fois à l'envie d'ouvrir une des pommes. Il était pour lors sur mer. L'on n'éprouve pour l'ordinaire aucune dissipation sur ce triste élément. Il y a donc fort peu de gens qui, dans un cas pareil, n'en eussent fait autant que lui. Il imagina qu'en faisant couvrir exactement le vaisseau sur lequel il était embarqué, la belle ne pourrait s'échapper. Il ouvrit alors la seconde pomme, et il en sortit, comme de la première, une personne dont la beauté était incomparable et qui lui témoigna tout autant de mécontentement. Et malgré toutes les précautions que le prince avait prises, elle disparut comme avait fait celle qui l'avait précédée. Ces deux expériences furent à peine suffisantes pour rendre le prince sage. Il arriva dans son pays et, ayant ouvert la seule pomme qui lui restait, une personne aussi belle mais plus douce que les deux autres en sortit. Il l'épousa sur l'heure et se trouva le plus heureux des maris. Quelque temps après son mariage, une guerre importante l'obligea de se séparer de la belle incarnat blanc et noir. La reine mère, entre les mains de qui cette jeune princesse demeura, n'avait jamais approuvé ce mariage. Elle la fit mourir cruellement et fit jeter son corps dans les fossés du château. Et mettant le comble à sa méchanceté, elle supposa à la place de la malheureuse princesse une personne sur qui elle avait un pouvoir absolu. Le prince, à son retour, fut bien étonné de retrouver une femme si différente de celle qu'il avait quittée. mais la reine l'assura positivement que la personne qu'elle lui présentait était sa femme. Elle convint de toutes les différences qui se trouvaient en apparence, mais elle attribua cette métamorphose aux suites de l'enchantement. En effet, la manière dont cette fille avait été trouvée par le prince donnait une sorte de vraisemblance à ce discours. Enfin, soit par douceur, soit faute de défiance, car les honnêtes gens ne la connaissent pas, le prince ajouta foi à ce qu'on lui dit. Mais rien ne fut capable de le guérir de sa première passion. Il passait les jours et les nuits à rêver, et très souvent il demeurait des heures entières appuyé sur une des fenêtres de son palais. Un jour qu'il était dans cette triste occupation, il aperçut dans les fossés un poisson dont les écailles brillantes étaient mêlées d'incarnat, de blanc et de noir. Cet objet le frappa, et il ne lui fut plus possible de le perdre de vue. La reine-mère, trouvant que cette attention si marquée était une suite de la première passion, résolut encore d'en détruire le sujet. Elle ordonna, en secret, à celle qui jouait le rôle de la princesse et qui se trouvait grosse, de dire qu'elle avait une extrême envie de manger ce poisson, auquel le prince était si fort attaché. Il ne lui fut pas possible de refuser une chose que tout le monde jugeait être de si peu d'importance. On pêcha le poisson, on le servit à la prétendue reine, et le prince retomba dans sa première mélancolie. Il en fut soulagé une seconde fois par la vue d'un arbre incarnat blanc et noir. Cet arbre était d'une espèce inconnue. Personne ne l'avait ni planté ni apporté. Il était venu de lui-même. On l'avait vu naître tout d'un coup dans la place où l'on avait jeté les écailles du poisson. Ce bel arbre causa le même plaisir au prince et par conséquent la même jalousie à la reine-mère. La perte en fut donc aussitôt résolue. Malgré les oppositions et les regrets du prince, le bel arbre fut arraché et brûlé. Mais un superbe château, bâti de rubis, de perles et de jais, que les cendres de l'arbre produisirent à l'instant, fit revivre encore les trois couleurs que le prince avait toujours aimées. Elles parurent alors dans un éclat qui le ravit. Les efforts qu'il fit pour entrer dans cette belle maison furent longtemps inutiles, les portes lui en étant fermées. Il se contenta de les regarder sans cesse et demeura plusieurs jours dans cette occupation qui lui rappelait l'objet de ses désirs. Sa persévérance fut enfin récompensée. Les portes s'ouvrirent. Il entra dans le palais et, après avoir traversé plusieurs appartements dont les meubles répondaient à la richesse du dehors, il trouva dans un cabinet plus magnifique que ne l'était encore tout le reste du palais cette première femme dont il était si amoureux et dont le souvenir lui était si cher. Elle lui reprocha tout ce qu'elle avait souffert par sa trop grande facilité. Mais en même temps, elle lui témoigna la joie qu'elle éprouvait en voyant qu'il méritait un pardon qu'elle avait si grande envie de lui accorder. Le prince et la reine sa mère et la femme qu'elle avait supposée, rien ne troubla plus l'union de nos deux époux. Ils vécurent fort contents l'un de l'autre, aussi bien que de leur fortune. Fin de Incarnat blanc et noir par Louis de Mailly. Enregistré par Nathalie Mussard.
Le fermier prudent par Édouard Laboulaye. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Tony Oliva. Le fermier prudent par Édouard Laboulaye. Il y avait près de Raguise un fermier qui se mêlait aussi de commerce. Un jour, il partit pour la ville, emportant avec lui tout son argent, afin de faire quelques achats. En arrivant à un carrefour, il demanda à un vieillard qui se trouvait là quelle route il lui fallait prendre. « Je te le dirai si tu me donnes 100 écus, répondit l'étranger. « Je ne pars pas moins. Chacun de mes avis vaut 100 écus. « Diable !» pensa le fermier en regardant la mine de l'étranger, qui avait l'air d'un renard. « Qu'est-ce que peut être un avis qui vaut 100 écus ? Ce doit être quelque chose de bien rare, car en général, on vous donne pour rien des conseils. « Il est vrai qu'ils ne valent pas davantage. « Allons, dit-il à l'homme, parle, voilà tes 100 écus. « Écoute donc, reprit l'étranger, Cette route qui va tout droit, c'est la route d'aujourd'hui. Celle qui fait un coude, c'est la route de demain. J'ai encore un avis à te donner, continua-t-il, mais il faut aussi me le payer 100 écus. Le fermier réfléchit longtemps, puis il se décida. Puisque j'ai payé le premier conseil, je puis bien payer le second. Et il donna encore 100 écus. « Écoute donc, lui dit l'étranger, quand tu seras en voyage et que tu entreras dans une hôtellerie, si l'hôte est vieux et si le vin est jeune, va-t'en au plus vite si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Donne-moi encore 100 écus, ajouta-t-il, j'ai encore quelque chose à te dire. » Le fermier se mit à réfléchir. Qu'est-ce donc ce nouvel avis? Bah, puisque j'en ai acheté 2, je peux bien payer le 3e. Et il donna ses derniers 100 écus. Écoute donc, lui dit l'étranger, si jamais tu te mets en colère, garde la moitié de ton courroux pour le lendemain. N'use pas toute ta colère en un jour. Le fermier reprit le chemin de sa maison, où il arriva les mains vides. Qu'as-tu acheté? Lui demanda sa femme. « Rien que 3 avis, répondit-il, qui m'ont coûté chacun 100 écus. Bien, dissipe ton argent, jette-le au vent, suivant ton habitude. Ma chère femme, reprit doucement le fermier, je ne regrette pas mon argent. Tu vas voir quelles sont les paroles que j'ai payées. » Et il lui conta ce qu'on lui avait dit. Sur quoi la femme haussa les épaules et l'appela un fou qui ruinait sa maison et mettait ses enfants sur la paille. Quelque temps après, un marchand s'arrêta devant la porte du fermier avec 2 voitures pleines de marchandises. Il avait perdu en route un associé et offrit au fermier 50 écus s'il voulait se charger d'une des voitures et venir avec lui à la ville. « J'espère, dit à son mari la femme du fermier, que tu ne refuseras pas. Cette fois, du moins, tu gagneras quelque chose. » On partit. Le marchand conduisait la première voiture. Le fermier menait la seconde. Le temps était mauvais, les chemins rompus. On n'avançait qu'à grand-peine. On arriva enfin aux 2 routes. Le marchand demanda celle qu'il fallait prendre. « C'est celle de demain, dit le fermier. Elle est plus longue, mais elle est plus sûre. Le marchand voulut prendre la route d'aujourd'hui. « Quand vous me donneriez 100 écus, dit le fermier, je n'irai pas par ce chemin. » On se sépara donc. Le fermier, qui avait choisi la voie la plus longue, arriva néanmoins bien avant son compagnon, sans que sa voiture y souffert. Le marchand n'arriva qu'à la nuit. Sa voiture était tombée dans un marais. Tout le chargement était endommagé et le maître était blessé par-dessus le marché. Dans la première auberge où on descendit, il y avait un vieil hôtelier. Une branche de sapin annonçait qu'on y vendait à bon marché du vin nouveau. Le marchand voulut s'arrêter là pour y passer la nuit. « Je ne le ferai pas, quand vous me donneriez 100 écus, s'écria le fermier. » Et il sortit au plus vite, laissant son compagnon. Vers le soir, quelques jeunes désœuvrés, qui avaient trop goûté au vin nouveau, se querellèrent à propos d'une cause futile. On tira les couteaux. L'hôte, alourdi par les années, n'eut pas la force de séparer ni d'apaiser les combattants. Il y eut un homme tué, et comme on craignait la justice, on cacha le cadavre dans la voiture du marchand. Celui-ci, qui avait bien dormi et n'avait rien entendu, se leva de grand matin pour atteler ses chevaux. Effrayé de trouver un mort sur son chariot, il voulut fuir au plus vite pour ne pas être mêlé dans un procès fâcheux. Mais il avait compté sans la police autrichienne. On courut après lui. En attendant que la justice éclaircît l'affaire, on jeta mon homme en prison et on confisqua tout son avoir. Quand le fermier apprit ce qui est arrivé à son compagnon, il voulut au moins mettre en sûreté sa voiture et reprit le chemin de sa maison. Comme il approchait du jardin, il aperçut à la brune un jeune soldat monté sur un de ses plus beaux pruniers et qui faisait tranquillement la récolte du bien d'autrui. Le fermier arma son fusil pour tuer le voleur, mais il réfléchit. « J'ai payé 100 écus, » pensa-t-il, « pour apprendre qu'il ne faut pas dépenser toute sa colère en un jour. Attendons à demain. Mon voleur reviendra. » Il prit un détour pour entrer dans la maison par un autre côté, et comme il frappait à la porte, voilà le jeune soldat qui se jette dans ses bras en criant « Mon père, j'ai profité de mon congé pour vous surprendre et vous embrasser. » Le fermier dit alors à sa femme « Écoute maintenant ce qui m'est arrivé. Tu verras si j'ai payé trop cher mes 3 avis. » Il lui conta toute l'histoire, et comme le pauvre marchand fut pendu, quoi qu'il pût faire, le fermier se trouva l'héritier de cet imprudent. Devenu riche, il répétait tous les jours qu'on ne paye jamais trop cher un bon conseil, et pour la première fois sa femme était de son avis. Fin de Le fermier prudent par Édouard Laboulaye.
Les 3 cheveux d'or du diable, de Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les 3 cheveux d'or du diable par Jacob et Wilhelm Grimm. Traduit par Frédéric Baudry. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils, et comme il était coiffé quand il naquit, on lui prédit que dans sa 14e année il épouserait la fille du roi. Sur ces entrefaites, le roi passa par le village, sans que personne le reconnût, et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il entreprendrait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que lorsqu'il aurait 14 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi avait un mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il alla trouver les parents du nouveau-né et leur dit d'un ton tout amical « Vous êtes de braves gens, donnez-moi votre enfant, j'en aurai bien soin. » Ils refusèrent d'abord, mais l'étranger leur offrit de l'or, et ils se dirent « Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est pour son bien. » Ils finirent par consentir et par livrer leur fils. Le roi le mit dans une boîte et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une rivière profonde où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa fille d'un galant sur lequel elle ne comptait guère. Mais la boîte, loin de couler à fond, se mit à flotter comme un petit batelet, sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau. Elle alla ainsi à la dérive jusqu'à 2 lieues de la capitale et s'arrêta contre l'écluse d'un moulin. Un garçon meunier qui se trouvait là par bonheur l'aperçut et l'attira avec un croc. Il s'attendait, en l'ouvrant, à y trouver de grands trésors, mais c'était un joli petit garçon, frais et éveillé. Il le porta au moulin. Le meunier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, reçurent celui-là comme si Dieu le leur eût envoyé. Ils traitèrent de leur mieux le petit orphelin, qui grandit chez eux en force et en bonne qualité. Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda au meunier si ce grand jeune homme était son fils. « Non, sire, répondit-il, c'est un enfant trouvé qui est venu dans une boîte échouée contre notre écluse. Il y a 14 ans, notre garçon meunier l'a tiré de l'eau. » Le roi reconnut alors que c'était l'enfant, né coiffé, qu'il avait jeté à la rivière. « Bonnes gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. « Comme votre majesté l'ordonnera, répondirent-ils, et ils dirent au jeune homme de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il mandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il trouvât la chose faite à son retour. Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une faible lumière, et, se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette où il trouva une vieille femme assise près du feu. Elle parut toute surprise de voir le jeune homme et lui dit « D'où viens-tu et que veux-tu ? » « Je viens du moulin, » répondit-il. « Je porte une lettre à la reine. J'ai perdu mon chemin et je voudrais bien passer la nuit ici. »« Malheureux enfant, répliqua la femme, tu es tombé dans une maison de voleurs, et s'il te trouve ici, c'est fait de toi. À la grâce de Dieu, dit le jeune homme, je n'ai pas peur, et d'ailleurs, je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. » Il se coucha sur un banc et s'endormit. Les voleurs rentrèrent bientôt après, et ils demandèrent, avec colère, pourquoi cet étranger était là. « Ah ! Dit la vieille, c'est un pauvre enfant qui s'est égaré dans le bois. Je l'ai reçu par compassion. Il porte une lettre à la reine. » Les voleurs prirent la lettre pour la lire et virent qu'elle enjoignait de mettre à mort le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié du pauvre diable. Leur capitaine déchira la lettre et en mit une autre à la place, qui enjoignait qu'aussitôt que le jeune homme arriverait, on lui fit immédiatement épouser la fille du roi. Puis les voleurs le laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin, et quand il fut éveillé, ils lui remirent la lettre et lui montrèrent son chemin. La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait. On fit des noces splendides. La fille du roi épousa l'enfant né coiffé, et comme il était beau et aimable, elle fut enchantée de vivre avec lui. Quelque temps après, le roi revint dans son palais et trouva que la prédiction était accomplie et que l'enfant né coiffé avait épousé sa fille. « Comment cela s'est-il fait ? » dit-il. « J'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. » La reine lui montra la lettre et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut et vit bien qu'on avait changé la sienne. Il demanda au jeune homme ce qu'était devenu la lettre qu'il lui avait confiée et pourquoi il en avait remis une autre. « Je n'en sais rien, » répliqua celui-ci. « Il faut qu'on l'ait changée la nuit quand j'ai couché dans la forêt. » Le roi en colère lui dit « Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or, de la tête du diable. Rapporte-les-moi et ma fille t'appartiendra. » Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une pareille commission. Le jeune homme répondit « Le diable ne me fait pas peur. J'irai chercher les 3 cheveux d'or. » Et il prit congé du roi et se mit en route. Il arriva devant une grande ville. À la porte, la sentinelle lui demanda quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, » répondit-il. « Alors, » dit la sentinelle, « rends-nous le service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui nous donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. »« Attendez, » répondit-il, « je vous le dirai à mon retour. » Plus loin, il arriva devant une autre ville. La sentinelle de la porte lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, » répondit-il. « Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi le grand arbre de notre ville, qui nous rapportait des pommes d'or, n'a plus même de feuilles. »« Attendez, » répondit-il, « je vous le dirai à mon retour. » Plus loin encore, il arriva devant une grande rivière qu'il s'agissait de passer. Le passager lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, » répondit-il. « Alors, » dit le passager, « rends-moi le service de m'apprendre si je dois toujours rester à ce poste, sans jamais être relevé. »« Attends, » répondit-il, « je te le dirai à mon retour. » De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer. Elle était noire et enfumée. Le diable n'était pas chez lui. Il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil. « Que demandes-tu ? » lui dit-elle d'un ton assez doux. « Il me faut 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma femme. » « C'est beaucoup demandé, » dit-elle. « Et si le diable t'aperçoit quand il rentrera, tu passeras un mauvais quart d'heure. Cependant, tu m'intéresses, et je vais tâcher de te venir en aide. » Elle le changea en fourmi et lui dit « Monte dans les plis de ma robe. Là, tu seras en sûreté. »« Merci, » répondit-il, « voilà qui va bien. Mais j'aurai besoin en outre de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus d'eau ? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a plus même de feuilles? Et si un certain passager doit toujours rester à son poste sans jamais être relevé? Ce sont 3 questions difficiles, dit-elle. Mais tiens-toi bien tranquille et sois attentif à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Quand le soir arriva, le diable revint chez lui. À peine était-il entré qu'il remarqua une odeur extraordinaire. « Il y a du nouveau ici, » dit-il. « Je sens la chair humaine. » Et il alla fureter dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. « Je viens de balayer et de ranger, » dit-elle, « et tu vas tout bouleverser ici. Tu crois toujours sentir la chair humaine. Assieds-toi et mange ton souper. » Quand il eut soupé, il était fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de son hôtesse et lui dit de lui chercher un peu l'époux. Mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronfler. La vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit de côté. « Hé ! » s'écria le diable. « Qu'as-tu donc fait ?»« J'ai eu un mauvais rêve, » dit l'hôtesse, « et je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda le diable. « J'ai rêvé que la fontaine d'un marché qui versait toujours du vin s'était arrêtée et qu'elle ne donnait plus même d'eau. Quelle en peut être la cause ?»« Ah, si on le savait !» répliqua le diable. « Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer et le vin recommencerait à couler. » L'hôtesse se remit à lui chercher l'époux. Il se rendormit et ronfla de façon à ébranler les vitres. Alors elle lui arracha le second cheveu. « Ouh ! Que fais-tu ? » s'écria le diable en colère. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle, c'est un rêve que j'ai fait. Qu'as-tu rêvé encore ? » demanda-t-il. « J'ai rêvé que dans un pays il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or et qui n'a plus même de feuilles. Quelle en pourrait être la cause ? » ?»« Ah, si on le savait !» répliqua le diable. « Il y a une souris qui ronge la racine. On n'aurait qu'à la tuer. Il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Mais si elle continue à la ronger, l'arbre mourra, tout à fait. Maintenant laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » L'hôtesse l'apaisa et se remit à lui chercher ses poux jusqu'à ce qu'il fût rendormi et ronflant. Alors elle saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable se leva en criant et voulait l'abattre. Elle le radoucit encore en disant « Qui peut se garder d'un mauvais rêve ? Qu'as-tu donc rêvé encore ? » demanda-t-il avec curiosité. « J'ai rêvé d'un passager qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque sans que personne le remplaçât jamais. » « Hé ! Le sot ! » répondit le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a qu'à lui remettre sa rame à la main. Il sera libre et l'autre sera obligé de faire le passage à son tour. » Comme l'hôtesse lui avait arraché les trois cheveux d'or et qu'elle avait tiré de lui les trois réponses, elle le laissa en repos et il dormit jusqu'au matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans les plis de sa robe et rendit au jeune homme sa figure humaine. « Voilà les trois cheveux, lui dit-elle, mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions ?»« Très bien, répondit-il, et je m'en souviendrai. Te voilà donc hors d'embarras, dit-elle, et tu peux reprendre ta route. » Il remercia la vieille qui l'avait si bien aidé et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si heureusement réussi. Quand il arriva au passager, avant de lui donner la réponse promise, il se fit d'abord passer de l'autre côté. Et alors, il lui fit part du conseil donné par le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui mettre ta rame à la main. » Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile. La sentinelle attendait aussi sa réponse. « Tuez la souris qui ronge les racines, dit-il, et les pommes d'or reviendront. » La sentinelle, pour le remercier, lui donna deux ânes chargés d'or. Enfin, il parvint à la ville dont la fontaine était à sec. Il dit à la sentinelle, « Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. » La sentinelle le remercia et lui donna encore deux ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant né coiffé revint près de sa femme, qui se réjouit dans son cœur en le voyant de retour et en apprenant que tout s'était bien passé. Il remit au roi les trois cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les quatre ânes chargés d'or, fut grandement satisfait et lui dit « Maintenant toutes les conditions sont remplies et ma fille est à toi. Mais mon cher gendre, dis-moi d'où te vient tant d'or, car c'est un trésor énorme que tu rapportes. » « Je l'ai pris, dit-il, de l'autre côté d'une rivière que j'ai traversée. C'est le sable du rivage. Pourrais-je m'en procurer autant ? » lui demanda le roi qui était un avare. « Tant que vous voudrez, répondit-il, vous trouverez un passager. Adressez-vous à lui pour passer l'eau et vous pourrez remplir vos sacs. » L'avide monarque se mit aussitôt en route et, arrivé au bord de l'eau, il fit signe au passager de lui amener sa barque. Le passager le fit entrer et quand ils furent à l'autre bord, il lui mit la rame à la main et sauta dehors. Le roi devint ainsi passager en punition de ses péchés. L'est-il encore ? Eh ! Sans doute, puisque personne ne lui a repris la rame. Fin 2. Les trois cheveux d'or du diable, de Jacob et Wilhelm Grimm, enregistré par Nathalie Mussard. Les fraises de décembre par Claudius Ferrand. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les fraises de décembre par Claudius Ferrand. Il y avait une fois une veuve qui s'appelait Faucon. Elle habitait avec ses deux filles l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Naga. La plus âgée des deux enfants, qui répondait au nom de Chrysanthème, n'était en réalité que sa belle-fille, née de la première femme qu'avait eue son défunt mari. La veuve ne l'aimait point. Elle se montrait pour elle une cruelle marâtre. Toutes ses préférences étaient pour Rose, sa propre fille. Faucon avait le tort, très grave chez une mère, à cause des conséquences qu'il entraîne, de gâter une de ses enfants et de maltraiter l'autre. Autant elle témoignait à Rose une indulgence excessive, cédait au plus petit et au plus ridicule de ses caprices, passait par-dessus tous ses défauts, autant elle était sévère et brutale envers Chrysanthème, lui refusant jusqu'aux choses nécessaires et la maltraitant pour un rien. À Rose, toutes les caresses, toutes les friandises, toutes les attentions délicates. À Chrysanthème, au contraire, toutes les vexations, toutes les privations, toutes les réprimandes et très souvent les coups. La première possédait de beaux habits de soie, qu'elle changeait et ornait au gré de ses caprices. La seconde était vêtue pauvrement. Ses habits étaient d'étoffe grossière, et elle ne pouvait y ajouter aucun ornement. C'était elle qui faisait tout l'ouvrage de la maison, se levant de bonne heure, travaillant toute la journée et se couchant très tard, tandis que sa sœur faisait la grasse matinée, s'amusait tout le jour et se couchait dès qu'elle avait sommeil. Rose, étant une enfant gâtée, avait un mauvais caractère. Elle était orgueilleuse et méchante. Chrysanthème, au contraire, était bonne comme un ange et douce comme un agneau. Elle cherchait à ne point porter envie à sa sœur, acceptait sans se plaindre toutes les réprimandes, injustes pour la plupart, qui ne cessaient de pleuvoir sur elle, ne se fâchant jamais, et faisant sans murmurer tout le travail qu'on lui ordonnait de faire. On était au milieu du mois de décembre. La neige tombait à flocons. La campagne était toute blanche et il faisait bien froid. Tandis que Rose se chauffait, assise sur la natte, les deux mains appuyées sur les bords du brasero, Chrysanthème était à la cuisine, nettoyant la vaisselle avec ses petites mains gelées. Cédant à une brusque fantaisie, Rose appelle sa mère. « Maman, lui dit-elle, je voudrais bien manger des fraises. »« Des fraises, ma chérie ? » lui répond amoureusement sa mère. « Mais tu sais bien qu'il n'y en a plus. La saison en est passée. Veux-tu que je t'achète des oranges ?»« Non, maman, je ne veux pas d'oranges. Ce sont des fraises que je veux. » Et elle se met à pleurer. Une mère raisonnable lui aurait dit alors « Que signifient tous ces caprices ? Tu vas te taire à l'instant, ou sinon je te donne le fouet ?» Mais Faucon n'était pas une mère raisonnable. Habituée à céder à toutes les fantaisies de son enfant, elle lui répond en caressant ses cheveux. « Allons, ma mignonne, ne pleure pas. Je vais voir s'il y a moyen de te procurer des fraises. » Elle appelle Chrysanthème, qui travaillait à la cuisine. Celle-ci accourt aussitôt. « Écoute, petite paresseuse, dit la marâtre d'un ton rogue. « Ta sœur Rose désire manger des fraises. Va-t'en dans la campagne, il en reste peut-être encore. Tâche d'en trouver et d'en rapporter quelques-unes. » « Mais ma mère, se hasarde timidement à dire la fillette, il ne doit plus en avoir, et puis il fait bien froid, et la neige. » Elle n'avait pas fini de parler qu'une main s'appliquait avec force sur chacune de ses joues. « Tiens, voilà pour t'apprendre à ne point murmurer et à obéir quand on te commande. M'as-tu comprise, méchante enfant ? Tu vas aller à la campagne, et de toute façon, il faut que tu t'arranges pour apporter des fraises. Ta sœur Rose en désire. Allons, dépêche-toi. » Chrysanthème, dans son cœur, pensa que sa mère était bien cruelle de l'obliger à aller, en plein mois de décembre, et avec une pareille neige, chercher des fraises dans la campagne. Mais elle ne savait pas se plaindre ni désobéir. Elle prit donc un panier et, toute triste, sortit de la ville. Elle marcha longtemps. La neige tombait toujours, et il faisait bien froid. Ses petits pieds sans chaussures eurent beaucoup à souffrir. Elle avait beau marcher, il n'y avait pas de fraises. Aussi loin que sa vue s'étendait, elle n'apercevait dans la campagne que le blanc manteau de neige qui couvrait le sol, et les arbres qui en sortaient pleurant des larmes blanches. Chrysanthème, fatiguée, songea à rentrer à la maison, mais elle entrevit alors la réception qui l'attendait, si elle rentrait les mains vides. Elle savait qu'elle serait battue. Alors, toute triste et toute rêveuse, elle s'assit sur le bord d'une pierre. Après avoir de sa manche secoué la neige qui la recouvrait, et ne sachant plus que faire, elle se mit à pleurer. Chrysanthème pleurait, la tête dans les mains. Soudain, elle se sent frapper légèrement sur l'épaule. Elle lève la tête et aperçoit une femme très vieille, très vieille, dont le corps courbé en deux s'appuyait sur un bâton. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» lui dit celle-ci avec une grande bonté dans la voix. Chrysanthème lui raconte le motif de son chagrin et de ses larmes. « Eh bien, ne pleure plus, » reprend la vieille femme. « Viens, je vais te mener à un endroit où tu trouveras une grande quantité de bonnes fraises bien mûres. » Chrysanthème, toute joyeuse, se lève, essuie ses larmes et, se laissant prendre la main, s'en va où la conduit la bonne et compatissante vieille. Elles arrivent ainsi à la lisière du bois. Alors elles s'arrêtent. La vieille femme frappe deux fois dans ses mains, l'une contre l'autre. À cet appel, un homme qui paraît avoir 30 ans environ sort du bois et s'approche. La vieille se tournant vers Chrysanthème. « Ma fille, lui dit-elle, il faut que tout d'abord je te dise qui nous sommes. Je m'appelle Fuyu no Mikoto, je suis la déesse de l'hiver. Ce jeune homme est mon fils, il est le dieu de l'été, il s'appelle Natsumo Mikoto. » Puis, s'adressant à ce dernier, « Mon fils, voici une brave enfant qui cherche des fraises. Fais qu'elle en trouve et en emplisse son panier. » Le dieu de l'été s'incline alors profondément devant sa mère en signe de la plus humble soumission. Puis, joignant les mains et levant les yeux au ciel, il prononce quelques paroles mystérieuses. Au même instant, ô prodige, la nature se transforme, la neige disparaît. La campagne se couvre d'herbes verdoyantes, les arbres se chargent de fruits, une douce chaleur succède au froid de tout à l'heure, la terre a pris l'apparence qu'elle a au mois de juin. On voit en quantité de belles fraises bien mûres répandues parmi les fleurs. Chrysanthème cueille les fraises et ne met pas longtemps à remplir son panier, tellement elles sont abondantes. Quand le panier est bien plein, la fillette veut remercier ses illustres bienfaiteurs, mais elle ne les voit plus. Et voilà que les herbes, les fleurs et les fruits ont disparu à leur tour. La neige couvre de nouveau le sol et les branches des arbres. La nature a repris son apparence de tout à l'heure. Chrysanthème se demande d'abord si elle n'a pas fait un rêve. Puis, voyant son panier rempli jusqu'au bord de belles fraises rouges, elle comprend que le ciel est venu à son aide, a eu pitié de son chagrin et de ses larmes. Et, débordante de joie, elle rentre à la maison. Faucon et Rose furent vivement surprises de voir les belles fraises que Chrysanthème apporta. Mais, il n'y eut pour la pauvre fillette ni remerciement, ni récompense. Elle reçut l'ordre de retourner à la cuisine, continuer son travail interrompu. Pendant ce temps, la mère et la fille mangèrent toutes les fraises que Rose trouva excellentes. Quand elles eurent tout mangé, Rose dit à sa mère, « Maman, il doit y en avoir encore à la lisière du bois. Je veux y aller pour en cueillir moi-même. » « Il fait bien froid, ma chérie. Tu pourrais t'enrhumer. » « Il vaut mieux ne pas sortir aujourd'hui. Après dîner, j'enverrai ta sœur en ramasser encore. »« Non, maman, je veux y aller moi-même, » répéta l'entêtée jeune fille. La mère devait céder. Elle céda. Faucon et Rose mettent leurs plus chauds habits, prennent chacune un panier et sortent sans même prévenir Chrysanthème de leur départ. Elles se dirigent vers la lisière du bois. Elles marchent longtemps, mais il n'y avait plus de fraises. Elles voulurent rentrer et ne retrouvèrent plus leur chemin. Chrysanthème attendit jusqu'au soir leur retour. Puis, comme elles ne revenaient pas, « Elles seront peut-être allées à la lisière du bois ?» se dit-elle. Et toute tremblante, elle sortit et alla à leur rencontre. Quelle ne fut pas sa surprise et sa douleur de les trouver toutes les deux étendues, côte à côte, dans la neige. Faucon et Rose avaient perdu leur chemin et étaient mortes de froid. Les enfants sages sont toujours récompensés. Les mères méchantes et les enfants gâtés sont toujours punis. Fin des fraises de décembre par Claudius Ferran. Enregistré par Nathalie Mussard.
Les clous d'or par Paul Arène. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les clous d'or par Paul Arène.
Ah, mon pauvre homme, mon pauvre homme! Si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or.
Ainsi disait Tardive à Jean Bénistan, un soir d'hiver au coin de l'âtre, pendant que les enfants dormaient. Et Jean Bénistan ne trouvait rien à répondre, car, depuis longtemps, par sa faute, les affaires du ménage ne florissaient guère. Non pas que Bénistan fût paresseux ou mauvais homme, au contraire, seulement rien ne lui réussissait. Sobre, actif, debout avant l'aube, on ne rencontrait que lui par les chemins et par les rues, préoccupé, flairant le vent et cherchant là-haut, dans les nuages, un moyen de faire fortune. Généralement, il trouvait une idée chaque matin, car l'esprit ne lui manquait pas, des idées superbes. Tout, d'abord, allait à merveille, mais au dernier moment, les dépenses faites, les choses bien en train, quand il n'y avait plus qu'à recueillir les bénéfices, crac, une catastrophe survenait, et adieu nos projets, adieu nos espérances. Jean Bénistan avait beau se lever de bonne heure, je ne sais quel mauvais génie se levait toujours avant lui. Par exemple, Bénistan avait remarqué que les gens de son endroit, pour aller aux foires et marchés, faisait un grand détour à cause de la rivière. Il imagina en conséquence de vendre une de ses terres et de construire, avec l'argent, un bac dont il serait le passeur. Le bac fut vite achalandé. Les doubles deniers semblaient pleuvoir du ciel et Bénistan se croyait déjà riche. Quand les moines du couvent voisin, ayant reconnu que la spéculation était bonne, établir, à un quart de lieue au-dessus, un pont de pierre assez large et assez solide pour porter chevaux et charrettes, de sorte que, abandonné de tous, le bac du pauvre Bénistan finit par pourrir dans les saules. Une autre fois, Bénistan, qui, après un certain nombre d'entreprises pareilles, toujours commençant bien et toujours tournant mal, ne possédait plus pour toute ressource qu'un rocher pelé dont les huissiers n'avaient pas voulu, Bénistan essaya d'y cultiver des ruches. Les abeilles se réveilleront là comme chez elles, et leur miel sera bon à cause des lavandes. Tout l'hiver, Bénistan travailla à installer dans les abris de son rocher des troncs d'arbres creux, coiffés en guise de toit, de grosses pierres à plates qu'il lui fallait aller chercher très loin, derrière les collines. Et, quand approcha le printemps, il se mit à courir la campagne, dépensant ses derniers sous à acheter tous les essaims qui pendaient aux branches. « Décidément, dirent les voisins, Bénistan a trouvé la veine. » Sa femme elle-même y croyait. Personne n'avait les yeux assez grands au village pour admirer ses 100 ruches bien alignées, d'où coulaient déjà des fils de miel roux, et autour desquels les abeilles dansaient dans le soleil comme des étincelles d'or. La récolte fut bonne la première année. Elle paya presque les frais. Mais la seconde, les lavandes ayant subitement défleuri à cause de la grande sécheresse, presque toutes les abeilles moururent. Et de nouveau, par malchance, Bénistan se trouva ruiné. Bénistan avait voulu élever des poules. Le renard, en une seule nuit, égorgea poulets et poussins, le coq, les pondeuses et les couveuses. Bénistan avait voulu planter des vignes. Un flot précurseur du phylloxéra, et qui sait, peut-être le phylloxéra lui-même, car notre siècle n'a pas tout inventé, changea ses souches en bois mort, si bien que, travaillant, épargnant comme une fourmi, la bonne tardive, sur qui toutes les charges retombaient, se trouvait encore heureuse d'avoir à peu près chaque soir du pain bis dans la panetière et sur le feu une bonne soupe fumante qu'elle servait debout, suivant la respectueuse coutume d'autrefois, car autrefois jamais femme n'aurait osé s'asseoir à la table de son seigneur et maître. Mais tout a une fin. Depuis longtemps, la jolie panetière en noyer ciré avait été vendue. Les enfants, ce soir-là, ils commençaient d'ailleurs à s'y faire, étaient allés au lit sans souper, après avoir entendu pour la 20e fois, en manière de dédommagement, l'histoire de Jean de l'Ours et de ses grands combats avec l'archidiable, la seule que Bénistan connut. Pour comble de malheur, Ganagobie, le chat de la maison, Ganagobie, pourtant si fidèle, avait disparu. De temps en temps, Tardive se levait et appelait « Ganagobie ! Ganagobie !» dans la direction du village, mais Ganagobie ne revenait pas, chassé par l'odeur de misère. C'est là le grand chagrin qui tranchait l'âme de Tardive, et c'est ce grand chagrin qui lui avait arraché ce mot de reproche, le seul, en 7 ans, sorti de sa bouche. « Ah, mon pauvre homme, si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or. » Elle oubliait la brave femme qu'un coup de mistral avait, 15 jours auparavant, démoli la vieille porte vermoulue, dont elle aimait à faire reluire les ferrures. Elle oubliait que, faute de pouvoir la remplacer, ils en étaient réduits, pécaïres, à fermer leur cabane avec un buisson. Cependant, Jean Bénistan avait sur le cœur, comme un gros poids, les paroles de Tardive. « La femme a raison, songeait-il. Tout ce qui arrive n'arrive qu'à cause de moi. Si je l'avais laissé mener la barque tranquillement, sans me mêler de rien, nous serions riches. La maison aurait une porte et les petits ne crieraient pas la faim. Maudite jambe, maudit bras, que ne me les coupe-t-on en nourrice. Mais je sais maintenant ce qui me reste à faire, mes jambes et mes bras n'étant bons qu'à être cassés. » Alors, profitant de ce que Tardive s'était endormi, il l'embrassa bien doucement afin de ne pas la réveiller. Il embrassa de même les enfants. Puis, ayant déplacé et replacé le buisson, il s'en allait dans la nuit noire. 8 jours après, Tardive recevait une bourse contenant quelques écus. Elle devina, le pays se trouvait en guerre, que Bénistan avait dû se faire soldat. Bénistan eut des aventures, car il était fort brave et ne s'épargnait point. Un jour, se battant avec des Sarrasins qui venaient de débarquer et piller le long de la mer, Bénistan fut laissé pour mort par ses compagnons dans la mêlée. Mort ? Non pas, mais évanoui. Il revint à lui entre le ciel et l'eau, au milieu de gens coiffés de turbans. Il comprit qu'on l'emmenait prisonnier sur une tartane, et, s'étonnant de ne pas être chargé de chaînes selon l'usage, il s'aperçut qu'il avait les 2 bras cassés, chacun d'un coup de feu, et les 2 jambes tailladées d'une infinité de coups de sabre, ce qui rendait toute espèce de lien parfaitement inutile. Alors, pensant aux dernières paroles de Tardive, « Maintenant que me voilà sans bras ni jambes, espérons que notre porte aura bien des clous d'or. » Et les bons Sarrasins n'en revenaient pas, massacrés comme il était, de le voir sourire. La tartane accosta sous les remparts d'une ville blanche autour de laquelle il y avait une plaine de sable, un cimetière sans mur et un petit bois de palmiers. Jean Bénistan, prenant son parti des lois de la guerre, croyait qu'on allait le mettre à mort, ou tout au moins le faire esclave. Mais le roi de ces barbaresques, superbe vieillard à longue barbe, voulut d'abord qu'on le guérît, après quoi, plein d'admiration pour son courage il lui proposa d'être pacha, ce qui là-bas signifie général.
Bénistan répondit qu'un chrétien ne se bat pas contre des chrétiens,
mais le roi lui ayant affirmé par serment qu'il s'agissait surtout d'aller guerroyer contre les nègres idolâtres, le bon Bénistan accepta. Pendant des années et des années, Bénistan se couvrit de gloire dans des pays lointains et brûlés, sans avoir jamais aucune nouvelle de France. À la fin, pourtant, il obtint son congé et la permission de repartir accompagné d'un serviteur mort qui l'aidait à monter sur son cheval et à en descendre, car ses anciennes blessures et d'autres encore reçues depuis lui rendaient le corps un peu raide. Après des jours, après des nuits, voyageant par terre et par mer, Jean Bénistan, toujours avec son serviteur, arriva en vue de Marseille. Mais il n'y entra point, non plus que dans aucune autre ville, tant il était pressé de retrouver les siens. Et pourtant, lorsque, du haut de la dernière colline, il découvrit sa maisonnette, le cœur lui manqua, et il n'osait pas aller plus avant, car il eut peur soudain que quelqu'un n'y fût mort. « Remarque, dit-il au Morico, cette cabane ouverte, en jonc d'étang, avec une porte qui a l'air neuve. Tu vas te cacher tout près, dans la haie, et tu reviendras me dire ce qui se passera. » Au bout d'une heure, le Morico revint. « J'ai vu sortir de la cabane une femme en deuil et 6 enfants qui s'en sont allés vers l'église. » « Et qu'as-tu vu encore ?»«
J'ai encore vu un vieux chat roulé au soleil sur le seuil. »
Alors Jean Bénistan pleura de la joie qu'il éprouvait en apprenant que sa femme et ses enfants vivaient et que le chat était revenu. Jean Bénistan sortit 4 clous d'or de sa saquette. « Prends une pierre pour marteau et pendant que les habitants n'y sont pas, va planter ces clous d'or dans la porte de la cabane. » Quand Tardive revint de l'église où elle s'était rendue, comme elle faisait toutes les années au jour anniversaire de la disparition de Jean Bénistan, quand elle aperçut le chat qui, hérissé, soufflait de colère sur le toit et les 4 clous d'or aux 4 coins de la porte, se souvenant des paroles de jadis, elle s'écria
« Courez, mes enfants, courez vite au-devant de mon pauvre homme qui s'en revient de la guerre, sans doute, hélas, bien maltraité. »
Mais comme à ce moment, au détour du sentier, Jean Bénistan, aussi fier qu'un roi, apparaissait sur son cheval que le Morico tenait en bride, elle ajouta, presque évanoui,
« Dieu soit loué, il a ses bras, il a ses jambes, ses clous d'or m'avaient fait grand-peur. »
Et Bénistan disait en l'embrassant, « Oui, j'ai mes jambes, oui, j'ai mes bras, mais tellement meurtri et blessé qu'ils ne veulent plus que le repos. Désormais, Tardive, tu peux être tranquille. Sors pour moi le fauteuil, là, devant la porte, sous la vigne. Mets le vieux chat sur mes genoux. Et, si par hasard, il n'y avait pas ce soir de soupe à manger, je rapporte des pays d'Afrique pour les petits devenus grands, toutes sortes d'histoires plus belles que celles de l'archidiable et de Jean de l'Ours. » Mais c'était là discours pour rire, comme une joie trop vive en inspire, car, à force de peine et de travail, pendant l'absence de Bénistan, Tardive était redevenu presque riche, et lui possédait des trésors. « Maintenant, si vous passiez par mon village, je pourrais vous montrer intact. » Le brave homme, s'y trouvant bien, ne voulut jamais en habiter d'autres. La cabane de Jean Bénistan. La porte existe toujours. À vrai dire, les clous d'or manquent. Mais on voit la place des trous. Fin de Les clous d'or par Paul Arène. Lu par Herman Roskans.
« Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.